Salut, salut, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on reçoit une dame qui a un parcours autant pour moi excellent, qui va nous partager son parcours, qui va nous partager en quelque sorte ce qu'elle a vécu, elle va nous partager son expérience. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime ce genre d'émission en fait, là où les gens viennent partager leur expérience dans la communauté noire. Parce que ça permet de booster la communauté, ça permet d'emmener la communauté à un autre niveau. Parce que je reste convaincu qu'il y a des gens qui ont du potentiel, mais beaucoup ne partagent pas leur potentiel. Et comme ces personnes ne partagent pas leur potentiel, ce qui arrive, c'est qu'on a toujours des cas là où des gens réussissent dans la communauté, mais c'est comme si c'était un secret en fait. Et elle, elle a décidé de nous parler de son parcours. De ses hauts et de ses bas, de ses défaites et de ses victoires. Donc aujourd'hui, on reçoit Madame Andreas Chevalier qui va nous parler de son livre qu'elle a écrit récemment. Sur ce, je vais l'introduire. Mais les amis, déjà, lorsque vous arrivez dans le live, partagez le live parce qu'aujourd'hui, elle va nous partager son parcours et elle va nous enseigner de son expérience. Sur ce, on est parti, les amis.
Bonsoir Warren. Bonsoir.
Salut Andreas, comment ça va?
Très bien, très bien. J'espère que toi aussi. Bonsoir à tous.
Ça va, ça va. Ok, cool, cool, cool. Excellent, excellent. Alors,
super.
Ça fait déjà, je tiens à te remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui pour nous partager ton parcours parce que c'est toujours intéressant. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que pourquoi je te le dis? Parce que Guerrier Mental ne reçoit pas beaucoup de femmes. Et quand on reçoit une femme comme ça, là, on est satisfait, ce que tu vois. On est satisfait oui, et ça nous motive davantage. Et le but, c'est que quand on voit des femmes courageuses comme toi qui viennent nous parler de leur parcours, ça nous motive et on espère que beaucoup de femmes après toi vont encore venir. Je crois que peut-être que tu es la deuxième ou la troisième. On veut plus de femmes dans la communauté qui viennent parler. Donc, merci, merci, merci. Alors, premièrement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore?
Oui, tout à fait. Je m'appelle Andrea Chevalier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je suis arrivée en France il y a bientôt 21 ans. Donc, je suis à Libreville, au Gabon. Mm-hmm. J'ai grandi à Libreville. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, notamment de la maternelle jusqu'en troisième de mémoire, si je ne me trompe pas. Mmh. Et j'ai passé une très, très belle enfance à Libreville, à l'école française.
Ok, ok, d'accord. Ok. Ah, donc tu étais à l'école française de Libreville. Ah, ça en dit long.
Tout à fait.
Ah, oui. Ok. Ok, ok, ok. Mais quand tu es à Libreville, comment se passe ton parcours, c'est-à-dire ton parcours scolaire, en fait? C'est-à-dire ton enfance à Libreville. Tu grandis dans quelles conditions à Libreville, en fait?
À Libreville, je grandis dans de très bonnes conditions. Hein. Mmh. J'étais dans une très bonne école, mais sauf que mon souci, c'est que je n'étais pas forcément une très, très bonne élève. Mmh. Je n'avais pas de très bonnes notes à l'école. C'est que du haut de mes 7 ans, 7, 8 ans, j'étais extrêmement timide. C'était mmh. maladif. J'étais un enfant très, très, très timide. Et prendre la parole pour moi, la prise de parole pour moi, était vraiment un parcours du combattant. Dès mon plus jeune âge, ça a toujours été comme ça. Et le fait d'être une mauvaise élève à l'école, ça n'arrangeait pas les choses. C'est que je m'ennuyais vraiment beaucoup à l'école. Jusqu'au jour où l'instituteur en avait tellement marre que je sois une élève déconcentrée et qui, c'est vrai que je manquais beaucoup de concentration parce que je m'ennuyais. Je l'ai su beaucoup plus tard. Ce jour-là, il a décidé de m'installer au fond de la classe. Avec un autre élève qui était aussi mauvais que moi. Donc, on était deux cancres au fond de la classe. Et c'est quelque chose, j'avais 7 ans, 7, 8 ans à l'époque, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a traumatisée. Ah. Et ça, c'est une histoire que... Oui, oui, oui. C'est une histoire qui m'a vraiment traumatisée. Installer un enfant de 8 ans au fond de la classe parce que c'est un mauvais élève, parce qu'il ne comprend pas forcément ce que lui explique l'instituteur, c'est pas forcément une bonne démarche vis-à-vis d'un adulte, auprès d'un enfant de 7-8 ans. Ça peut être traumatisant, mais ça peut lui inculquer des blocages et il grandit avec et il se dit qu'il est nul et qu'il ne vaut rien.
Yeah, yeah. Tout à fait. Enfin, je suis d'accord avec toi parce que et c'est justement ça qu'on reproche à l'éducation en général, notamment l'école, c'est que on met les gens qui ne comprennent pas d'un côté et ceux qui comprennent un peu, ce sont eux qu'on met de l'avant. Et c'est ce qui est différent avec l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est le travail en équipe. Est-ce que tu vois? Et c'est ceux qui bloquent beaucoup les gens. C'est-à-dire que tu vois, et c'est ce que je disais une fois avec un ami, c'est-à-dire tous les premiers de la classe aujourd'hui, en fait, certains des premiers que dans ma classe, quand je grandissais, ceux qui étaient les meilleurs élèves en classe, si tu vois leur parcours aujourd'hui, tu te poses juste la question de savoir, donc c'est celui-là qui me fumait en classe, en fait. Est-ce que tu
vois? Tout à fait. Oui, je l'ai constaté aussi.
Tu vois, parce qu'on arrive à un niveau là où souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met ceux qui ne s'en sortent pas, ce n'est pas qu'ils sont bêtes, c'est juste que eux, ils ont une façon de comprendre les choses qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Mais on pense que ils sont pas intelligents. Avec... Bon, bref. Alors, maintenant, quand tu grandis dans, en fait, tu grandis dans quel quartier, au fait?
Moi, j'ai grandi au quartier Zangayon. En Zangayon, je suis restée des années là-bas avec ma famille. Mmh. et avant d'arriver en France, en fait, on s'est installé à Lui parce que la base est à Lui, en fait. Je suis d'origine, je viens de Libreville même. Et mon grand-père, toute ma famille est installée à Louis. Je suis une Louisienne.
Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, cool. Ah, finalement, après ton parcours à Libreville, qu'est-ce qui te pousse à finalement... Oh, au fait, avant que je ne continue, les amis, mettez-nous des likes et partagez la vidéo, partagez le live parce qu'aujourd'hui, on reçoit quand même... Une grande dame de la communauté noire. Donc, ce sera quelque part égoïste de ne pas faire profiter au plus grand nombre ce direct, en fait. Donc, partagez.
J'en suis honoré, ouais. Merci.
Non, il faut le dire. C'est-à-dire, le problème dans notre communauté, c'est qu'on ne sait pas aussi valoriser ceux qui font du travail dans la communauté. Est-ce que tu vois? On est toujours en train de critiquer. Quand ça ne va pas, on critique. Mais quand quelqu'un sort du lot et que quelqu'un fait quelque chose d'excellent, il faut arriver à valoriser cela, en fait. C'est vraiment pas dans le but de t'enchanter, mais c'est vraiment dans le sens là où j'apprécie ton travail et je pense qu'il mériterait qu'on le mette à jour, en fait. Donc voilà, partagez. Merci. Le direct, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez la page Facebook. Alors, finalement, quand tu grandis à Libreville, qu'est-ce qui te pousse de partir en France, en fait?
Ce qui m'a poussée à partir, c'est surtout le travail de ma maman, parce qu'elle travaillait à cheval entre la France et Libreville. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion très jeune de venir en France pendant les vacances. Et c'est un pays que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours porté sur mon cœur. Mmh. Et du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai voulu continuer mes études malgré que ça n'allait pas forcément à l'école. J'ai voulu continuer mon parcours scolaire en France. Mmh. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France tout naturellement pour la poursuite de mes études.
Ah, okay.
Parce que malgré que j'avais des mauvaises notes, j'arrivais quand même à passer en classe supérieure, mais passablement, avec des 10 sur 20. C'était assez moyen. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en France en seconde, juste après la troisième.
Ok, d'accord. Ok, vas-y, termine.
Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'intègre une école en France. Donc, j'ai choisi un peu au hasard ma seconde, parce que j'avoue qu'à 16 ans, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire de sa vie, on se projette pas forcément dans un avenir hyper loin, en fait, on est assez près. Et, et au final, j'ai intégré une seconde économique qui me plaisait. Hein, j'avais de bonnes notes parce que c'est quelque chose sympa. Là, du coup, tout ce qui est économie, communication, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait à cette époque. Ce qui fait que quand je travaillais sur une matière qui me plaisait, j'arrivais à avoir des scores incroyables à l'école. Mais quand Par exemple, je travaillais sur une matière qui ne plaisait pas du tout. C'est vrai que je manquais beaucoup de concentration et c'est là que j'avais de très mauvaises notes. Et je me suis aperçue que, au final, au fur et à mesure des années, que j'étais très à l'aise dans les matières qui me plaisaient, en fait. Et les matières qui me plaisaient pas, je faisais pas d'efforts forcément, je j'étudiais pas et j'étais plutôt mauvaise même, très nulle. Et ça me poussait à sécher les cours. Et j'ai eu de la chance parce qu'en seconde économique, c'était l'économie était ma matière principale, donc j'étais assez à l'aise. Ce qui fait que j'ai pu me réorienter très facilement parce que j'ai fait qu'une année et au final, moi, ce que je voulais, c'était vraiment travailler tout de suite. Du haut de mes 17 ans, j'ai voulu faire un parcours d'apprentissage, faire du pratique directement en entreprise et de l'école en même temps, mais pas que de la théorie. Et c'est comme ça que j'ai intégré en fait une école hôtelière parce que j'étais super à l'aise. Comment je pourrais dire ça? J'étais assez à l'aise en public au fur et à mesure des années. J'ai réussi en fait à travailler sur moi et à détruire un petit peu ce côté timide qui m'a bouffé l'année pendant qui m'a bouffé la vie pendant des années.
Ok, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Mais non, il faut quand même reconnaître que c'est quand même atypique pour une jeune fille. C'est-à-dire, beaucoup penseraient que moi, quand j'arrive en France, je veux d'abord avoir mon bac, je veux avoir mon master, etc., etc. Mais d'où te vient ce côté-là où directement tu veux, bon, on va pas dire passer du coq à l'âne, mais quand même, à un moment donné, tu es quand même précoce par rapport aux jeunes de ton âge. D'où te vient
Oui.
ce côté vivace-là, en fait.
Parce que je m'étais rendu compte que j'étais plutôt quelqu'un du terrain. Plus les années passaient, plus je me rendais compte que tout ce qui est théorie à l'école, j'avais du mal à comprendre ça, en fait. À comprendre que des cours théoriques sans pratique. Et en fait, je pense que j'avais un blocage, mais vraiment avec le côté théorique. Je pense que c'est quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Et du coup, j'avais fait un essai dans une école hôtelière qui posait justement le côté théorique et le côté pratique en entreprise. Donc, j'avais testé ça pendant une semaine et j'ai vu que c'est quelque chose qui me correspondait. Déjà, à travers les stages auparavant, en amont que j'avais fait, je m'étais rendu compte que plutôt, moi, j'étais très à l'aise avec le côté pratique. Et j'ai abrégé, j'ai synthétisé un petit peu parce que c'était pas facile. Faut quand même dire les choses. Hein. L'arrivée en France fut très, très difficile. Déjà, l'adaptation, c'est pas évident. On arrive en France, on a 16 ans, on a toute une vie au Gabon, hein, qu'on a laissé derrière des amis, des connaissances, des proches et tout ça. Donc, quand on arrive comme ça, c'est vraiment pas évident de s'intégrer. Donc voilà, c'est vrai que j'ai synthétisé un petit peu mon parcours.
Ouais, mais je veux que tu nous parles quand même de ça. Je veux quand même que tu nous parles de ça. C'est-à-dire, tu es quand même une jeune Gabonaise qui est née et grandie au Gabon. Après, tu arrives en France. Mais comment ça se passe, effectivement, l'adaptation aussi? Je veux vraiment pas qu'on saute ça parce que ça aussi, ce
Oui.
serait quand même bien que tu nous parles de ça. C'est-à-dire, tu as toutes tes habitudes du Gabon, tu arrives directement en
Oui.
France à 16 ans. Comment ça se passe en fait? Comment se fait le contact avec les autochtones que tu rencontres sur place?
Après, c'était facile, oui et non, étant donné que j'étais à l'école française, donc j'avais déjà côtoyé en fait ce côté-là des Français. Et j'ai une maman qui a fait en sorte qu'on soit élevé. Qu'on ait une double culture en fait. Ce qui fait qu'elle nous a élevés aussi bien à la gabonaise, hein, on mangeait aussi bien des feuilles de manioc avec notre manioc que des frites avec de la blanquette de veau. Donc elle nous a élevés avec ces deux cultures-là. Ce qui fait que l'adaptation était compliquée de par le climat, de par le tempérament des personnes, hein. Ce qui fait la différence quand on vient de sous les tropiques, on a un côté plutôt cool, plutôt zen. On a grandi sous les côtiers, en bord de mer. Donc, quand on arrive comme ça, on est sur le terrain on côtoie le métro, hein, on arrive à accéder à une vie assez speed. Donc, faut quand même pouvoir s'adapter et se dire, ah oui, effectivement, la vie est complètement différente. Et il y a l'hiver aussi qui arrive en plus. Donc, on se dit, ah ouais. Effectivement, le soleil me manque, mais au final, on continue, on persiste, on persévère, et puis on fait tout pour s'intégrer à cette France, hein, qui est ma terre d'accueil, que j'aime beaucoup. Et au final, ça s'est fait tout naturellement, progressivement. Je ne vais pas mentir, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait quand même assez progressivement, lentement, en côtoyant différents types de populations, que ce soit à l'école ou dans le cadre du travail. Ça donne une ouverture d'esprit et puis et ça permet de s'intégrer assez facilement, mais avec un bon mental, bien sûr.
Avec
Tout est dans la tête.
Et avec un guerrier mental.
C'est ça, tout à fait.
Ok, cool, excellent. Alors, finalement, quand tu décides de ne pas forcément suivre le parcours de tout le monde, parce que tu vas à l'école, tu commences à te former, mais au bout d'un certain temps, la théorie te fatigue. Et que tu décides de
énormément.
Voilà, et que tu décides de prendre un parcours qui n'est pas forcément celui que tout le monde prend. Comment est-ce que ta mère, ta famille le prend en fait? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça? Parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que nos parents, la plupart du temps, quand ils nous envoient à l'école, eux, ils veulent qu'on fasse de la sixième en terminale jusqu'au bac, après au bac, on va à l'université, etc., etc. Comment est-ce que les parents réagissent par rapport au fait que toi, quelque part, tu veux sauter les étapes en fait?
Bah moi, ma maman a plutôt bien réagi parce que mes frères et sœurs sont des personnes qui ont fait des études. Ils sont allés assez loin, hein, des études même poussées de haut niveau, sauf moi. Et au final, ma maman m'a accompagnée dans ce parcours atypique. Je lui ai expliqué clairement que moi, l'école, c'était pas pour moi et que j'ai compris que moi, ce que je voulais, c'était travailler tout de suite, même sans diplôme, mais que je savais que j'allais faire quelque chose de grand plus tard. Et ça, ma maman, elle m'a suivi dans ce sens. Elle m'a pas mis les bâtons dans les roues. Au contraire, elle m'a accompagnée. Elle me dit, vas-y, je te laisse libre choix. À toi de voir et je compte sur toi. Et rien que le fait de me l'avoir dit, ça fait un électrochoc dans ma tête. Et je me suis dit, faut que je fonce, faut que j'y aille. J'ai pas de diplôme, certes. Je vais donner plus que les autres. Je vais toujours en faire plus pour aller plus loin. Je n'avais pas le choix, en fait. Et ce qui fait que quand je suis arrivée dans le milieu de l'hôtellerie, c'est un milieu qui m'a beaucoup apporté, sans diplôme, hein, bien sûr. Je faisais les chambres, j'étais femme de ménage au début quand je suis arrivée. Certes, j'étais apprentie, mais les apprentis ont souvent des seconds rôles dans l'hôtel. Donc, ce qui fait que je faisais des tâches assez, assez délicates, comme éplucher des légumes ou faire les chambres, en fait, ou sinon la plonge. J'ai passé du temps à la plonge, à faire la vaisselle de l'hôtel et du restaurant. Et j'ai fait ça pendant des années et je me suis dit, j'irai plus à l'école, j'arrête là parce que du coup, l'entreprise voulait m'embaucher, mais en tant que plongeuse. Et donc, au final, je me suis dit, bon, bah, je vais rester là. Et oui, j'ai fait la plonge pendant longtemps. Oui. Et c'est là l'intérêt de. C'est là que tout change, en fait, au final, dans ma vie.
Ok.
Dans cet hôtel.
Yeah, ok, on va venir progressivement. Mais quand même. Quand tu décides de ne pas forcément suivre le parcours académique de tout le monde et toi chercher à prendre ta voie, est-ce que quelque part tu n'étais pas aussi quand même un peu habité par la peur de faire le mauvais choix? Est-ce que quelque part tu n'as pas douté par rapport au fait que, ah ben écoute, je suis en train de quand même de prendre un parcours que tout le monde n'a pas forcément pris, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer pour moi? Comment est-ce que tu as géré la pression en fait?
Ah ben si, il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de tristesse, beaucoup de dépression aussi, parce que quand on ne sait pas où on va, forcément, ça a un impact sur le moral. Et au final, j'ai qu'une formule voilà, que j'ai toujours gardée dans ma tête, hein, quelque chose qui m'a toujours aidée, c'est vraiment la foi, la persévérance, la foi en quelque chose. Mm-hmm. La foi à ce que, en fait, la foi, croire en quelque chose, en un projet et la persévérance. Ça, c'est vraiment deux formules qui m'ont toujours habité depuis toujours. Et grâce à ces deux formules et avec un soutien aussi de mes proches, ça m'a beaucoup aidé à avancer et à me dire, malgré tout, même si j'ai un parcours assez atypique, je vais y arriver. J'ai pas de diplôme, certes. Pour l'instant, je travaille dans un hôtel. Je fais pas des tâches forcément les plus intéressantes, mais bon, mais ça va aller. Je continue. Et du coup, jusqu'à ce qu'un jour, j'en ai marre et que j'aille voir le directeur de l'hôtel et que voilà, je le confronte en lui disant j'ai envie de faire autre chose. Donc, trouvez-moi une place ailleurs.
Ok.
Voilà.
Cool, excellent. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que je réalise qu'au fur et à mesure qu'on échange, je réalise en fait que c'est vraiment ta détermination qui t'attire, qui t'a vraiment poussé vers ta réussite, en fait. Parce que je pense clairement que déjà, si tu étais timide, ça ne pourrait pas le faire, ça c'est clair. Je pense que tu as tué la timidité dès le début et tu avais…
Il n'y a pas de place dans les timides, malheureusement. En 2021, dans ce monde, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité.
Yeah, exactement. Et si tu veux prendre ta liberté, si tu sais que tu es timide, mieux vaut mettre d'abord de côté, tu travailles d'abord sur toi. Parce qu'il n'y a pas
c'est
de
ça.
Place.
C'est ça, un gros travail en soi. C'est ça, ouais. C'est ça.
C'est yeah. Ça. Yeah. Ok, d'accord. Maintenant, lorsque tu commences, parce que bien évidemment, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu commences à travailler, on va dire quelque part en termes de femme de ménage, c'est-à-dire ce que tu fais, c'est que tu arranges les lits, etc.
Oui.
Ce que je veux quand même que tu nous partages, c'est que dans ce genre de milieu-là, il y a souvent, c'est pas toujours évident de vouloir se faire une place. Est-ce que, au-delà du fait que tu aies quand même voulu te faire ta place-là, est-ce qu'il y a des gens qui te, par exemple, les gens que tu avais trouvés dans le service, qui t'ont quand même bien accueilli dans le sens là où ils essayaient de te montrer comment est-ce qu'il faut bien faire le travail, ou tu as dû te battre toi-même pour te faire une place? Comment ça s'est passé en fait? Comment est-ce que ton arrivée se passe dans cet environnement qui est pratiquement nouveau pour toi en fait?
Oui, non, mais ça se passe très bien. Je suis formée par des… En fait, on est formé par des personnes qui nous disent qu'au final, c'est une tâche qu'on s'accapare de cette tâche et qu'on la fera en fait quasiment toute sa vie en fait. Malheureusement, quand on arrive sur le terrain, on est bien formé, mais malheureusement, ces personnes pensent qu'on arrive et qu'on va y rester à vie, quasiment. Mmh. Et moi, c'était pas le but. Moi, ce que je voulais, c'était arriver, déjà, c'était rentrer dans ce groupe hôtelier, qui était quand même un très, très grand groupe. Je ne citerai pas forcément le groupe hôtelier ici, mais c'était quand même une très, très grosse chaîne à l'échelle mondiale. Et c'est que quand on arrive, malheureusement, sur un poste comme ça, ces personnes-là pensent que on a une étiquette et on doit faire que ça à vie, en fait. Là, je parle des formatrices, hein, des personnes qui font ça depuis X temps, depuis des années. Mm-hmm. Et elles y sont encore, hein, à l'heure où je vous parle, hein, des personnes que j'ai trouvées là-bas, au même poste, qui sont encore actuellement là-bas, au même poste.
Waouh.
Voilà. Jusqu'à ce que j'aille voir le directeur et que je lui demande, voilà, parce que je lui ai dit, j'ai arrêté mes études, certes, j'étais à l'école hôtelière, je n'ai pas été jusqu'au bout, l'école ne m'intéressait pas. Donc, moi, j'ai arrêté mes études, certes, mais je veux faire quelque chose de plus valorisant. Et du coup, il me fait, ok, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que vous voulez faire? Et j'étais surprise de sa réponse. Et il me dit, ok, mais il n'y a pas de souci, qu'est-ce que vous souhaiterez faire dans l'hôtel? Donc, voilà, je lui explique un petit peu ce que j'ai envie de faire. Et puis, on fait un essai, il n'y a pas de souci. En plus, du coup, voilà, il met directement avec les clients. Donc, c'est comme ça que c'est parti. C'était des clients quand même assez haut de gamme. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant des années. Le directeur, il m'a dit une chose qui m'a marquée. Il m'a dit, mais vous savez que vous êtes la seule à être venue me voir pour me demander de changer de poste. Et j'étais surprise, en fait, qu'il accepte si naturellement. Et je pense qu'il attendait que ça, que j'aille le voir depuis mon arrivée, en lui disant, je suis là, je fais ça, mais je voudrais faire autre chose. Et c'est comme ça que j'ai touché un petit peu à tout dans l'hôtel. J'ai touché à tous les postes, quasiment. Et là, après, à partir du moment où je me suis détachée de la plonge de femme de chambre, etc., que j'ai gravi un petit peu les échelons dans l'hôtel, du coup, j'ai pu aller encore plus loin.
Andrea, tu vas trop vite. Je sens que tu es beaucoup passionnée, mais attends. Tu vas trop vite la passion dans tes propos. Le truc, c'est qu'attention, quand tu quittes de femme de ménage, après, tu passes à la plonge. Je veux vraiment que tu nous mettes chaque détail parce que la science du détail a son importance aujourd'hui parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont dans le cas par lequel tu es passé actuellement et le but, c'est de leur partager ton parcours afin que chacun comprenne que certes, tu peux commencer en bas, mais ne te limite pas simplement en bas, en fait. Alors, le truc, c'est que tu étais femme de ménage. Après, au bout d'un certain temps, ce qui se passe, c'est que tu décides, excusez-moi, tu décides après ça d'aller voir le patron. Alors, mais maintenant,
oui.
Premièrement, tu passes de femme de ménage à directement à la plonge. Mais en fait, dans cette transition-là, est-ce que la plonge, c'est quelque chose de facile? Parce que tu es quand même,
dans
la plonge, tu es quand même dans la plonge, dans un restaurant. Comment est-ce que tu gères la difficulté là, en fait?
Bah, c'est pas évident, c'est vrai que travailler à la plonge quand on est une femme, c'est pas évident parce que la plonge, il faut savoir que c'est pas de la vaisselle délicate. Quand je parle de plonge batterie, c'est de la plonge où voilà, c'est des grandes casseroles, c'est des ports de charge lourdes. Mmh. Surtout que je suis pas grande. Et c'est vrai que c'est quelque chose quand on fait ces tâches-là, on se dit et qu'on se pose des questions. On se dit à un moment donné, je me suis dit mais je suis pas venue en France pour faire ça en fait. Je suis pas venue en France pour rester là, faire des tâches comme ça à vie. C'est ce genre de tâches. Mais mon dos, il va se briser. Je suis pas très grande et je portais vraiment des charges hyper lourdes. Et je me suis dit, mais je vais pas inquiéter mes beaux ongles et mon dos à faire ça toute ma vie. Exact. Je dis, ma mère, elle a pas acheté un billet d'avion, m'a amené en France pour que je fasse des études, pour que j'ai une perspective d'avenir pour faire ça. Et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, non, j'ai vraiment envie de faire autre chose. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. J'ai envie d'avoir, de construire une famille et de faire quelque chose de mieux que ça, en fait. Je dis pas que c'est mauvais de faire la plonge. Non, pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui forge aussi, ça vous forge aussi un certain caractère, en fait. Et au final, vous dites que quand vous voyez, déjà, je vais pas être une mauvaise langue, mais quand vous voyez la population qui a dans les plonges des restaurants, hein, c'est souvent malheureusement nos semblables, quand on les voit faire ça toute leur vie et qui nous disent, hein, quand on arrive sur site, ah mais tu demandes à un adulte qui est là depuis X temps, il te dit je suis là depuis 30, 40 ans, depuis toute ma vie, depuis que je suis arrivée en France, je suis là. Et quand on regarde ces personnes-là, on se dit, waouh, j'ai pas envie de finir comme ça. Je suis née en France et c'est pas pour passer 30, 40 ans dans une plonge d'un restaurant sans perspective d'avenir. Ça, c'est clair.
Exactement, exactement. Je pense que ce que tu dis là, c'est très clair parce que beaucoup de personnes, justement, quand y a ce côté-là, c'est-à-dire, c'est bien que tu le dises parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de l'étranger, c'est que tout va être donné en fait. Il suffit que tu te mettes en France ou aux États-Unis. En fait, c'est ce qu'on voit à la télé en fait qui nous trompe. Est-ce que tu vois un peu?
Oui. Ça n'existe pas, ça c'est dans les beaux rêves.
Voilà, c'est les réalités qu'on voit à la télé souvent qui nous trompent. Alors les amis, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, Andreas nous partage son parcours atypique. Donc, partagez la vidéo, mettez-nous des likes, partagez au maximum. Parce que ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui là, je pense que il y a des gens ici qui vivent pas forcément peut-être ce qu'elle a traversé. Et aujourd'hui, elle est en train de donner des techniques et des stratégies. Comment est-ce que votre situation aujourd'hui ne doit pas déterminer votre futur en fait? Et ça, c'est pas très bien qu'elle le fasse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté, eux sont bloqués par rapport au fait que oui, ça ne va pas pour moi, je vais me contenter. Vous voyez bien qu'elle, elle a refusé de se contenter de ce que la société dans laquelle elle a évolué lui dessinait comme parcours, en fait. Et c'est ça qui est important, en fait. Donc, alors les amis, et l'autre chose aussi que je veux dire, c'est que dans la barre de description, si vous voulez soutenir la chaîne, on a le lien PayPal dans la barre de description. N'hésitez pas à soutenir la chaîne parce qu'on veut amener la chaîne à un autre niveau. Donc, priez de soutenir la chaîne également. Alors, Andreas, maintenant, quand tu es dans ton boulot de la plonge, etc., comment est-ce que ton patron arrive à te déléguer encore d'autres tâches? Parce que tu nous as bien dit qu'après, au bout d'un certain temps, il arrivait maintenant que tu te baladais dans plusieurs services, en fait. D'où vient la confiance que ton patron a placée en toi pour commencer à te confier d'autres responsabilités, en fait?
Bah, en fait, je pense qu'il a, avec le recul, je me dis, il a apprécié le culot et l'audace que j'avais parce que les autres n'osaient pas aller le voir en lui disant, bah écoutez, moi je suis prête à faire autre chose. La plonge, c'est bien, faire des chambres, c'est bien, mais j'aspire vraiment à autre chose. Donc, à partir du moment où je suis allée le voir et je lui ai soumis l'idée de changer de tâche. Il a vraiment apprécié cette démarche et cette audace, en fait, parce que c'était un patron assez imposant et tout le monde avait peur de lui et tout le monde avait peur de lui demander quoi que ce soit. Et du coup, moi, j'ai osé, voilà, je lui ai demandé, il m'a dit OK, et c'est comme ça que tout a basculé, tout a changé. Tout simplement.
Non, je pense que lui-même, clairement, il était impressionné par ton audace.
Il s'y attendait pas, oui. Il s'était
Je
pas
pense.
préparé à ça, oui.
Exactement. Mais quand même, quand tu pars, tu es resté là-bas pendant combien de temps? Environ.
À la plonge ou à l'hôtel?
C'est-à-dire à l'hôtel en général, c'est-à-dire entre la plonge et l'hôtel en général, combien de temps tu as passé là-bas en fait en général, dans ce travail en fait?
7-8 ans, ça parle de 7-8 ans, 7-8 années.
Exact.
Oui. Et à la plonge, j'ai dû passer de mémoire 9, 1 an, je dirais 1 an, à peu près.
Ok. Tu as vu qu'il y a Karl ici qui dit que le caractère d'un leader. Tu as vu que déjà,
Merci, Carl.
tu es déjà un
Sans
leader. En fait, tu étais déjà un leader né sans le savoir.
le savoir, c'est ça.
Ouais, c'est ça, c'est très bien. On est tous fiers de toi, on est tous fiers de toi. Alors,
Merci, j'en suis honorée.
finalement, qu'est-ce qui te pousse à partir de là? Parce que clairement, tu t'étais quand même déjà fait une place. Tu avais déjà clairement fait ce que beaucoup d'employés, pourquoi pas, qui étaient là depuis des années, n'avaient pas réussi à faire,
C'est vrai.
avoir le fait que tu touches la, la, la le, en fait le truc c'est que par rapport à tous les employés qui étaient là, le chef même il reconnaît une chose, c'est que personne n'était jamais venu le voir pour lui dire que non, 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 moi le travail là, moi c'est plus moi, moi je veux aller à autre chose. C'est-à-dire, tu avais il y a quand
Oui.
même des marques, mais qu'est-ce qui te pousse à partir en fait? Pourquoi tu pars?
Ce qui me pousse à partir beaucoup, beaucoup plus tard, c'est surtout la pression des horaires. Souvent, en hôtellerie, on a des horaires assez compliqués à gérer. Et du coup, à l'époque, j'étais jeune maman. Voilà, il y a eu un heureux événement dans ma vie. Et c'est ce qui m'a poussée à réfléchir et à me remettre en question une nouvelle fois et à me dire, certes, j'ai un statut assez confortable dans l'hôtel. Je vais pas me plaindre, mais le confort au niveau des horaires, c'est compliqué. Il n'y avait pas. Et c'est vraiment cette problématique qui m'a fait me remettre en question et qui a fait en sorte que je parte de l'hôtel.
Ah, ok. Donc les heures ne correspondent en fait les heures ne correspondaient plus avec ta nouvelle vie de maman en fait.
C'est ça, oui, tout à fait. C'était assez compliqué de gérer les deux et c'était pas possible de s'arranger avec le patron au niveau des horaires, tout ça. Donc je me suis dit, bon, ok, j'ai une belle expérience, pourquoi pas faire autre chose? Et c'est là que le calvaire commence. Sans diplôme
Alors,
en
exactement.
poche.
Exactement. Alors, finalement, quand tu pars de là et que tu es maman, j'espère que tu n'as pas été maman célibataire parce que je peux imaginer si j'espère, j'espère.
Non, non, non.
Ok.
Non, non, il y a eu après le mariage, je me suis mariée et du coup, j'en suis très heureuse, toujours
Ok.
aujourd'hui.
Excellent,
Oui.
excellent. Félicitations. Très bien.
Merci.
Fi finalement, quand tu décides de partir de là et qu'il y a ton enfant qui est né, c'est-à-dire. Comment se passe maintenant la transition en fait? Parce que là, tu avais quand même une source de revenus conséquente et tu avais un poste. Maintenant que tu es maman, mais malheureusement, le planning du travail ne correspond plus à ta vie de maman. Comment ça se passe maintenant en fait?
Là, c'est tout un. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce j'étais sur la capitale et c'est vrai que ça bougeait pas mal et j'aspirais maintenant à une vie plus à une qualité de vie plus douce en fait. Et c'est là qu'avec mon mari, on a eu l'idée de s'orienter un petit peu vers la province, vers une belle province en France. Donc mon mari, lui, pour les hommes, c'est souvent un petit peu plus facile que les femmes. Il a pu être muté assez rapidement. Et moi, j'ai pas une mutation, c'était pas possible. Et donc j'ai démissionné de l'hôtel où je travaillais pour rejoindre mon mari en province. Et là, j'ai vraiment, 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 vraiment galéré pour me reconvertir professionnellement. C'était vraiment très compliqué.
Ah ça, ouais, je peux imaginer, je peux imaginer. Mais maintenant, quand tu décides de rejoindre ton mari en province, est-ce qu'il te demande de ne pas forcément travailler ou bien c'est toi-même qui veux forcément travailler parce que tu veux être aussi utile au foyer en fait? Parce que la plupart du temps, il y a certaines personnes qui disent parfois à leur femme que « Non mais chérie, tu n'es pas obligé de travailler. » Est-ce que c'est toi-même qui voulais travailler ou bien peut-être que toi-même aussi, par rapport au fait que toi-même, clairement, tu es une femme battante, tu voulais forcément aussi, quelque part, apporter ta pierre à l'édifice dans le foyer.
Oui. Oui, tout à fait. Moi, je voulais absolument, absolument travailler et je suis avec quelqu'un aussi qui est assez, assez battant et assez encourageant et il m'a encouragé aussi à travailler, à continuer à chercher du travail. Il a été un vrai, vrai soutien pour moi. Donc, donc voilà, il a joué un rôle majeur hein, dans ma reconversion professionnelle. Je parle de lui parce que c'est lui qui m'aidait à l'époque à faire. On faisait des simulations d'entretien parce que ça, c'est pas évident. Savoir se vendre auprès d'un employeur, c'est très compliqué. Surtout quand on n'a pas de bagage, on n'a rien du tout. On a une belle expérience dans l'hôtellerie. C'est beau, hein, sur le CV, c'est bien. Ouais. Mais sans diplôme, c'est très compliqué de nos jours pour trouver un emploi confortable.
Oui. Exact, exact. En fait, pour être honnête même, c'est-à-dire, si tu n'as pas une qualification de nos jours, en fait, c'est comme si, en fait, les dés sont pipés d'avance pour toi, en fait. Ce que tu vois.
C'est foutu là, d'avance. C'est,
bon, ça, il ne faut même pas qu'on se mente. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as su clairement déjouer ces plans-là et vraiment très bien. Mais alors, finalement, c'est-à-dire, quand tu arrives dans cette province-là et que tu commences à te préparer à faire ta transition, au final, comment est-ce que tu vas… C'est-à-dire, quand tu as fait des embauches, quand tu as fait des entretiens, comment est-ce qu'on te retient dans une banque? Ou bien après, lorsque tu es arrivé, tu as eu d'abord un autre travail et ensuite tu es directement allé à la banque. Comment ça s'est passé en fait?
Quand je suis arrivée en province, il y avait beaucoup d'offres. Moi, je voulais travailler, en fait, c'était simple. Je voulais travailler tout simplement dans l'assistanat, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui m'attirait. Et je sais qu'en travaillant dans l'assistanat, j'aurais des horaires assez, assez confortables qui pourraient correspondre à ma vie de famille. Mais travailler dans l'assistanat sans au minimum un Bac+2, c'est hyper compliqué. Et ce qui fait que souvent… quand j'allais dans des organismes de recrutement, ils me proposaient souvent des tâches telles que faire du repassage dans les restaurants ou du ménage. C'était souvent ça qui m'était proposé, alors que moi, je leur disais que je voulais travailler dans l'assistanat. Mmh. Et eux, ils me disaient que ce n'était pas possible. Malgré mon expérience dans l'hôtellerie de luxe, c'était quasiment impossible pour moi de travailler dans l'assistanat. Et du coup, ils me proposaient des missions telles que repassage. Et un jour, je me suis dit, et aller compter des voitures sur des ronds-points. Et un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et au final, au bout de 100 demandes, j'avais dû envoyer 100 candidatures. J'étais refusée systématiquement. Je me suis dit, bon, on va essayer. Donc, du coup, j'ai accepté leur mission de voilà, comptage de voitures, repassage de nappes. Hein. Je repassais les nappes dans un restaurant. Et il s'est avéré. Ce jour-là, j'ai eu vraiment un coup de chance. L'assistante du PDG partait en congé maternité. Et ce qui fait que quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah, mais c'est intéressant !» Donc, du coup, je suis allée la voir. Je lui ai dit « Bah, écoutez, moi, je recherche un emploi. Certes, je fais du repassage chez vous, mais moi, j'aspire à autre chose. Est-ce que je pourrais pas vous remplacer pendant votre congé maternité ?» Elle me fait « Ah bon, pourquoi pas ?» Et c'est de là que c'est parti. Et au final, elle s'est avérée qu'elle a pris mon CV et elle l'a proposé au PDG de l'entreprise qui a gentiment accepté. Du coup, on a fait un test, ça s'est très bien passé. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pu mettre un pied dans l'assistanat. C'est comme ça que j'ai réussi à bifurquer à ce moment-là. Mais au bout de bien 2 ans. J'ai bien galéré pendant 2 ans. C'était des refus systématiques en entretien d'embauche. C'était tout le temps
mais quand même, Oui, mais quand même, je veux que tu mettes une pause là-dessus et que tu expliques aux gens c'est quoi l'assistanat. Hein, parce que là, ce ne sera pas. Voilà. Est-ce que tu peux clairement expliquer en mots faciles c'est quoi l'assistanat en fait?
Oui, l'assistanat, c'est de l'assistante commerciale, en fait, et faire préparer des documents dans les entreprises, aider le patron ou les commerciaux dans leur emploi, traiter des dossiers. C'est vraiment du traitement de secrétariat.
Ok, cool. Mais finalement, quand cette nouvelle aventure commence, comment est-ce que tu gères les défis? Quels sont les défis qui se dressent face à toi?
Ben, quand cette nouvelle aventure commence, parce que du coup, c'était une découverte totale, c'est un métier que je n'avais jamais fait, que je découvrais, justement, je ne connaissais pas du tout. Et encore une fois, l'audace avait payé. Je suis allée voir le patron qui m'a dit, bah, pourquoi pas, on peut essayer. Donc, on a essayé. Là, la difficulté, c'était vraiment de m'imprégner le poste, de comprendre les tâches. Mais je vais vous dire une chose. Et en fait, que les gens n'ont pas tendance à penser à ce genre de choses. Étant donné que je venais déjà de l'hôtellerie, dans l'hôtellerie, même si vous faites le ménage, même si vous faites le repassage, même si vous faites la restauration, peu importe le métier que vous faites, vous développez ce qu'on appelle des compétences. Vous développez des compétences. Et dites-vous que vous développez des compétences d'organisation, vous êtes rigoureux, vous avez un certain savoir-faire. Et en fait, et les gens ne pensent pas que ce savoir-faire et cet acquis de compétences, ils peuvent le retransmettre à une autre entreprise et dans une autre tâche, en fait. Et à force, avec tout ça, je me suis rendu compte au final que j'avais développé mais pas mal de compétences, mais que j'avais pas forcément appris à l'école, mais que j'avais appris directement sur le terrain, en fait. Et c'est toutes ces compétences que j'ai ramenées, que j'ai réussi à vendre au patron, là, et que j'ai ramenées dans son entreprise. Tout ce que j'avais accumulé auparavant. Et au final, ça s'est très, très bien passé.
Waouh. Il y a quelque chose d'important que tu viens de dire. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui me fascine avec ton parcours. C'est que, en fait, regarde un peu ce qui se passe. C'est que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vont se vanter qu'ils ont des diplômes. Est-ce que tu vois? Mais beaucoup d'entre eux ne peuvent même pas faire la moitié de ce que toi, tu as pu accomplir jusqu'à maintenant. Parce que regarde, tu as clairement compris l'urgence de comprendre une chose, c'est que tous les boulots que tu as eu jusqu'à celui que tu as eu maintenant, là, qui te permet de t'en sortir et d'avoir une place dans la société, tu n'as pas pris ces boulots comme étant le fait que oui, mais c'est juste pour passer mon temps, en fait. Mais tu as vraiment fait en sorte que les différents emplois que tu as pu garder, en fait, tu as capitalisé en termes d'expérience, en fait.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait, oui.
Et vraiment, c'est tellement profond ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont partir, et je tiens à le souligner, c'est que dans la vie, il y a ce, je sais pas, quand on était petit, il y avait un jeu qu'on jouait à Voma après pâté. C'est-à-dire, je sais pas, tu as connu le jeu là, en fait.
J'ai connu, oui.
Voilà. Le truc, c'est que quand on faisait ce genre de course là, mais la vie, en fait, nous enseigne une chose, c'est que à la ligne de départ, tout le monde ne part pas avec les mêmes chances. Est-ce que tu vois un peu?
C'est ça. Oui.
Tout le monde ne part pas avec les mêmes chances. Mais l'arrivée, ce qui est bien, c'est que bon, à la ligne de départ, certains vont partir avec Bac plus 5, Bac plus 20, doctorat, PhD, etc. Ça, c'est la ligne de départ. Mais à la ligne d'arrivée, ceux qui vont arriver, en fait, ce sont ceux qui ne vont pas se laisser sous-estimer par le fait que, bon, je suis en train de compétir avec quelqu'un qui a un master, je suis en train de compétir avec quelqu'un qui a un doctorat en sciences nucléaires, je suis en train de compétir avec quelqu'un qui a, je ne sais pas quoi, qui est plus riche que moi. Et toi, tu l'as compris le plus tôt possible. Et c'est tellement excellent et c'est tellement beau de voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire, tu n'as pas lésé sur le fait que, oui, mais je ne suis pas assez intelligente ou bien je n'ai pas forcément les diplômes requis. Mais tout ce que tu as acquis depuis le début, autant pour moi, ont permis de t'apporter une valeur ajoutée vers là où tu étais en train de partir.
Je l'ai su beaucoup plus tard, ça. Mais je l'ai su vraiment beaucoup plus tard, oui. Tout à fait.
Ouais, bien sûr.
Mais sur le coup, on ne s'en rend pas compte.
Exact. Et c'est vrai, en fait, parce que Quand on apprend, on se dit juste, bon, on veut juste gagner un peu et puis faire ce qu'on a à faire. Mais on ne réalise pas, en fait, qu'on a envie d'acquérir des compétences, en fait.
C'est ça. Tout à fait. Et peu importe ce que vous faites, en fait, comme tâche, que ce soit du ménage, du repassage, de la restauration, il faut le faire bien, en fait. Il faut le faire bien. Peu importe ce que vous faites dans l'entreprise. Et ça, le patron le remarque.
Yes. Yes, exactement. Exact. Exact. Maintenant, finalement, quand tu décides de commencer ton travail dans l'assistanat, comment est-ce que ça se passe en fait?
Ça se passe vraiment, vraiment très, très, très bien, hein, comme une lettre à la poste. J'étais quasiment dans mon élément et c'est comme si c'était quelque chose que j'avais toujours fait en fait. Et au final, c'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment des compétences qui venaient d'avant, des tâches que j'avais occupées auparavant. Et que j'ai pu mettre en place dans cette entreprise.
Ok, cool. Maintenant, par rapport à tout cela, tu es clairement devenue, c'est-à-dire tu es passée de plongeuse dans un restaurant ou dans un hôtel à banquière.
Mais, oui, tout à fait.
Voilà. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tu n'étais pas limitée à nous partager ton parcours. Mais ce qui est intéressant également, c'est que tu as voulu partager ton parcours au plus grand nombre en écrivant un livre.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, là, c'est là. On va maintenant un peu rentrer dans le contexte de ton livre. Alors, déjà, on va parler de ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'inspire à partager ton parcours? Parce que vois-tu, dans la communauté noire, quand quelqu'un réussit, parce qu'on va dire ça comme ça, ne parlons pas sans langue de bois, tu as réussi à ta façon, tu as su créer ton rêve à ta façon, et je pense que William Water l'a si bien dit dans son livre La science de l'enrichissement, il dit que la réussite se définit par rapport à ce que tu veux être. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est ta réussite à toi. Ne rentrons pas dans le contexte là où les gens pensent que réussir, c'est d'avoir forcément tous les diplômes. Et les gens qui ont tous les diplômes, ils sont toujours pauvres. Ils n'ont même pas de quoi nourrir leur famille. Toi, tu as réussi. Mais non, comme tu as réussi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir partager ton parcours aux autres? Alors qu'on sait que dans la communauté, les gens aiment cacher leurs choses.
Oui, malheureusement, je voulais faire cette différence-là parce que c'est vrai qu'à force de passer des entretiens d'embauche dans plusieurs domaines, dans plusieurs milieux, c'est vrai que étant donné mes candidatures étaient systématiquement rejetées, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'attend le recruteur en fait de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et j'ai voulu savoir en fait. Et c'est de là que c'est parti toutes ces études. Concernant le recrutement, des études, je parle d'études personnelles, hein, c'est des recherches, des simulations, du travail personnel que j'ai effectué, et ce qui fait que à chaque fois, à un moment donné, j'ai vu que je devenais quasiment une experte concernant ma personne en fait. Je savais me vendre en fait à un entretien d'embauche. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quelque chose que je peux pas garder pour moi. C'est quelque chose qu'il faut que je partage parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui me ressemblent en fait, qui sont quasiment comme moi il y a quelques années, parce que j'allais en entretien d'embauche avec la boule au ventre et je me disais que ma candidature allait être mise de côté, j'ai pas de diplôme, mais qu'est-ce que je vais apporter à la société, qu'est-ce que je vais faire dans l'entreprise. J'avais un manque de confiance totale en moi, je savais pas comment m'adresser à un recruteur, je savais pas comment commencer. Et du coup, j'ai fait vraiment une recherche personnelle et avec l'aide de mon mari aussi qui faisait du recrutement auparavant. Donc on a fait il m'a pas mal aidé dans l'écriture de ce livre et dans les simulations que je faisais auparavant à l'époque quand je passais des entretiens. Et au final, oui, avec toute cette expérience de recherche d'emploi et d'échange avec le recruteur, avec toutes ces connaissances, je me suis dit que j'allais faire un livre et le partager au plus grand nombre pour aider des personnes qui sont comme moi il y a quelques années ou qui étaient comme moi il y a quelques années à trouver un emploi et pourquoi pas le job de leur rêve, d'où l'intitulé de mon livre « Comment trouver le job de ses rêves avec ou sans diplôme et même en temps de crise ». Donc voilà,
wow.
C'est à ça qui ressemble.
Ok, ben ton livre déjà, le titre déjà même est très inspirant. Très, très inspirant. C'est-à-dire, quels sont, c'est-à-dire, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails du livre, bien évidemment, parce qu'il faut que les gens le découvrent, bien évidemment, mais
Oui.
de façon succincte, quel est un peu, on va dire, de façon ramassée, les différentes thématiques du livre, en fait.
C'est un livre qui est totalement pratique, justement. J'ai voulu faire quelque chose de très pratique, très facile à lire. Il y a, dans ce livre, on retrouve et beaucoup d'astuces, en fait, de méthodes de recrutement, hein. Je dévoile pas mal d'astuces, ce qu'attend le recruteur de nous, en fait. Et au final, il y a énormément de simulations d'entretien d'embauche. Dans ce livre, je prends vraiment les gens par la main du début à la fin. Et je leur explique comment se passe le processus d'un recrutement. Il y a une seule chose qu'il faut retenir. Le recrutement, la candidature se passe bien avant le CV, la lettre de motivation, bien avant d'être devant le recruteur. Tout se passe d'abord dans la tête. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'explique
Exact,
vraiment
exact, exact.
en profondeur dans le livre comment ça se passe.
OK. Mais quand même, il y a quand même quelque chose que je tiens quand même à souligner, c'est que, en fait, c'est ce qui t'a motivé clairement à écrire ce livre-là, quelque part, c'est en fait cette frustration-là que tu avais du fait que à chaque fois, on te rejetait dans les entretiens, en fait.
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est presque une revanche en fait sur la vie. Avec tous ces rejets, c'est ce qui m'a poussé vraiment à écrire ce livre, avec humblement, hein, bien sûr.
Non, mais c'est clair. En fait, l'idée, c'est que, en fait, tu rejoins ce qu'on dit si bien en entrepreneuriat, c'est que celui qui crée un business, il y a deux façons de créer un business. Soit ça part d'une frustration, soit
Oui.
ça part dans l'amélioration de la qualité d'un service. Est-ce que tu vois? Et
C'est ça.
toi, tu es parti d'une frustration, en fait. C'est-à-dire, tu es
Tout à
parti
fait.
clairement du principe que ce que tu as vécu, tu ne voulais plus que les gens comme toi le vivent aussi. Est-ce que tu vois un peu?
C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et surtout que je le vois au quotidien parce que on est une minorité de la communauté à travailler dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Malheureusement, les personnes de ma communauté font le ménage des bureaux, hein. C'est ça, faut dire ce qu'il en est, hein. Les statistiques le prouvent, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et malheureusement, j'aimerais bien aussi qu'elles comprennent qu'elles sont capables de faire autre chose que de faire uniquement du ménage ou autre. Elles sont capables d'aller plus loin que ça. Elles valent beaucoup plus que ça. Il suffit juste d'avoir le petit truc, le petit déclic.
Exact, exact, c'est vrai, c'est vrai. Mais les amis, préparez vos questions, hein. Si vous avez des questions, préparez vos questions. Pour Andreas, afin qu'elle puisse répondre à vos questions, parce que moi, on va dire ça comment? Moi, mon lot de questions là commence à s'éponger. Donc, merci de mettre déjà vos questions parce que Andreas a un parcours excellent. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Alors,
Merci, ouais.
mais quand même, Andreas, si aujourd'hui, est-ce que dans ta ville, par exemple, je ne sais pas là où tu es, mais est-ce que dans ta ville, tu as déjà penser à pourquoi pas créer des séances là où tu peux aider tes sœurs dans la communauté à se prendre en charge, à se prendre en charge. Parce que regarde, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que il y a beaucoup de personnes, notamment dans notre communauté, la communauté noire, on est tellement, on se sous-estime tellement trop que du coup, on ne réalise même pas souvent le potentiel qu'on a au plus profond de nous.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que il t'arrive de, est-ce que tu projettes clairement faire un travail avec les femmes dans la communauté noire par rapport à cela?
Oui, j'ai commencé, d'où l'ouverture de ma page Job Attitude sur Facebook. Et il y en a quelques-unes qui m'ont contacté déjà, avec qui on a commencé un travail il y a 2 semaines. Elles sont deux, donc pour l'instant. Mais le but, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'aider beaucoup plus de personnes. Donc là, je suis en pleine création de ma chaîne YouTube aussi, Job Attitude, voilà, qui sera ouverte dans les jours à venir pour pouvoir aider le maximum de personnes. C'est bien sûr dans la communauté, mais je suis ouverte aussi à d'autres possibilités. Il n'y a pas, y a
bien
pas
sûr,
de souci.
Bien sûr.
Tout à fait.
Ok, très bien, excellent, c'est très bien. Maintenant, si aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui, il y a une femme qui nous regarde actuellement et qu'elle est, elle est débitée par rapport au fait qu'elle réalise une chose, c'est qu'elle n'a pas eu forcément le succès dans les études et qu'elle pense forcément que sa vie est terminée, quel sera ton conseil par rapport à ces derniers?
Moi, ce que je pourrais lui dire, que sa vie n'est pas finie déjà, sa vie est terminée que si elle le décide, que si elle le veut elle, que si c'est sa propre réalité. Et au final, moi, ce que je peux lui dire, c'est de croire en elle. Elle a certainement du potentiel, même si elle n'a pas de diplôme, ou peu importe, elle a certainement fait des tâches, elle a de l'expérience. Et qui dit expérience, dit forcément compétence, elle a forcément fait quelque chose. C'est ce que je disais justement. En ce moment, j'accompagne une coiffeuse. Je parle d'elle justement dans mon livre de mémoire. Et en fait, une coiffeuse qui se dit qu'elle a fait que ça toute sa vie, qui veut changer de métier. La société va lui faire croire qu'elle n'a fait que coiffeuse toute sa vie, qu'elle ne peut pas faire autre chose. Mais si une coiffeuse est en contact avec le public, une coiffeuse en fait a ce qu'on appelle un côté relationnel excellent. Une coiffeuse fait de la caisse, elle manipule de l'argent. Une coiffeuse a forcément développé des compétences qu'elle ignore elle-même, en fait. Et c'est ça que je fais ressortir, moi, chez les personnes que j'accompagne, justement, en privé. Et des fois, les gens sont surpris, sont vraiment surpris de ce que je leur dis. Par rapport à eux, je leur apprends des choses sur eux-mêmes qu'ils ne savent même pas. Donc, faut croire en soi et se poser des questions si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous souhaitez vous reconvertir. Se demander ce que vous avez fait jusque-là et dites-vous que même si c'est des stages ou peu importe ce que c'est, vous avez forcément des compétences en vous. Pas des compétences que vous avez forcément étudiées à l'école ou autre. Il y a d'autres compétences qu'on appelle des compétences transversales. Mais j'en parle dans mon livre, je peux pas forcément en parler ici. C'est des compétences naturelles que vous avez en vous et peu importe ce que vous voulez faire comme métier, vous en êtes capable. Et il faut y croire.
Exactement, exact. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Ben écoutez, les amis, j'ai mis le lien en barre de description. Il y a déjà, on a déjà une question là qu'on va prendre. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu penses du parcours d'Andreas? Je ne sais pas trop qui a posé la question, mais bon. Je ne sais pas. Dans tous les cas, attends. On va regarder, on va juste un peu en train de scruter le fil d'actualité.
D'accord.
Voilà, on va regarder s'il y a des gens qui ont des questions. Voilà, je pense que j'ai mis le lien en commentaire, hein, les amis. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre sur le live, le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire en sorte que lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez apparaître à l'écran avec nous et Andreas pourra vous voir, pourquoi pas, et vous pouvez lui poser la question en direct. Ou encore, si vous êtes timide, et que vous ne voulez pas passer devant la caméra, priez simplement de laisser votre question en commentaire. Alors, Andreas, récemment, j'ai vu que l'influenceuse Ruby a partagé ton livre. Comment s'est fait la connexion?
Oui, tout à fait. Comment?
Comment s'est fait la connexion entre toi et elle?
Ah, très bien, très très bien. Ruby est une femme extrêmement intelligente et j'ai eu l'occasion, oui, de lui apporter, de lui offrir gentiment mon livre et je voulais absolument avoir son avis et savoir ce qu'elle en pense, avoir son avis, pardon. Et Ruby, elle a vraiment vraiment adoré le livre et d'où le partage de mon livre sur sa chaîne et Ruby a retenu une chose, justement, qu'on a dit tout à l'heure concernant mon livre, c'est vraiment, elle m'a dit, mais tu as raison par rapport à ce que tu dis, tout commence dans la tête, avant la recherche d'emploi. Elle a vraiment adoré ce livre et elle m'en a félicité. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est une battante, pareil, hein, c'est vraiment, c'est une fille de la communauté qui se bat, hein, et qui est extrêmement, extrêmement intelligente.
Ouais, mais ce sera bien. On pourra parler de ça en off aussi. C'est quelqu'un que j'ai envie de recevoir également dans la chaîne dans le prochain.
Ah, accessible.
Ok, cool. Alors, finalement, quand tu écris ton livre, est-ce que quelque part, comment est-ce que tu... Parce que, tu sais, dans notre communauté, les gens ne créent pas beaucoup, en fait. Est-ce que tu vois? Beaucoup, on ne crée pas assez. Ou encore, beaucoup de gens ne parlent pas assez de leur parcours. Est-ce que quelque part, tu ne t'es pas dit que si j'écris mon livre, est-ce que les gens vont le lire? Puisqu'il y a un fameux dicton qui dit souvent que si on veut cacher quelque chose à un noir, on doit le mettre dans un livre. Qu'est-ce que tu penses?
Oui, malheureusement, je connais ce dicton.
Qu'est-ce que tu penses de ces dictons aujourd'hui, toi qui es devenu, on va dire, écrivain, parce qu'il faut le dire.
Oui, c'est vrai. En fait, je me suis posé la question et au final, je me suis dit, mais c'est pas grave, même si sur 1000 personnes, il y en a une qui achète ce livre et que sa vie est transformée grâce à ce livre et qu'elle arrive à trouver un emploi, le job de ses rêves grâce à ce livre, pour moi, ce sera une réussite.
Oh, yeah, exactement, exact. Effectivement, le but, en fait, c'est ça. Le but, on n'est pas... En fait, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils vont lancer quelque chose, c'est qu'automatiquement, il faut atteindre le plus grand nombre. Alors que ça se fait de façon progressive et de façon exponentielle. Le plus important, c'est que la première personne que tu va toucher elle aussi une deuxième personne, ainsi de suite. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, par exemple, avec tout ce que tu nous as dit de beau aujourd'hui, Andreas, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec toi aujourd'hui, déjà, premièrement, ça, il ne faut pas que j'oublie de le dire, c'est que où est-ce qu'on peut retrouver ton livre d'abord?
Mon livre est disponible sur Amazon en version livre papier et en version e-book. Il y a d'autres versions qui vont arriver dans les semaines à venir.
Ok, est-ce que tu as un lien? Si tu peux nous mettre le lien, est-ce que c'est possible que tu nous mettes le lien ou bien la personne va directement te contacter et tu l'envoies le lien? Est-ce que c'est possible que tu nous envoies le lien? Si c'est possible, bien évidemment.
Oui, je vous enverrai le lien, il n'y a pas de problème. Ou la personne peut rentrer en contact avec moi, peu importe. Voilà. Je serai disponible.
Mm-hmm. Alors, bien évidemment, c'est-à-dire, on va juste sur Amazon, on tape la barre de recherche, c'est ça? Et on va.
Oui. Tout à fait, vous tapez Andrea Chevalier, normalement je remonte en direct et le livre ressemble à ça, mais je vous enverrai le lien, ce sera beaucoup plus simple.
Ok, voilà. ça marche. Alors, et bien évidemment, admettons par exemple que je suis intéressé par tout ce que tu as pu dire de bon aujourd'hui et que tu as touché mon mindset et que je veux rentrer en contact avec toi, où est-ce que je peux rentrer directement en contact avec Andrea Chevalier?
Je suis joignable sur Facebook, hein, sur Job Attitude, qui est mon Facebook où je partage souvent des astuces de recrutement. Et j'ai aussi ma chaîne YouTube Job Attitude qui sera mise en ligne. Enfin, il y aura des vidéos qui seront mises en ligne là dans les jours à venir.
Ok. Attends, je vais. Job Attitude, c'est collé, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. C'est tout attaché.
Attends, je mets déjà ça là pour que. Parce que oui, les amis, allez liker la page d'Andreas. Hein. C'est quelqu'un qui a fait du bon travail. Donc, aller aussi, c'est le but, c'est de soutenir les gens qui font un travail excellent dans la communauté. Donc, j'ai mis le lien en commentaire, les amis, www.facebook.com/jobattitude. Allez soutenir la page d'Andrea, allez mettre des likes. C'est quelqu'un qui apporte de la valeur dans la communauté. Et je pense que ce sera intéressant de soutenir ce genre de personnes, en fait. Mais maintenant, quand même, au-delà de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, si tu voulais que quelqu'un retienne quelque chose de ton livre, qu'est-ce que tu veux que quelqu'un retienne de ton livre?
Moi, ce que je voudrais que les personnes retiennent de ce livre, les personnes qui achètent ce livre, hein, déjà qu'elles me disent à la fin « Ah, j'ai appris quelque chose », et que au final mon livre puisse être un appui, un accompagnement. Mon livre est un espèce de coaching en fait sur livre qui vous accompagne vraiment jusqu'au bout de votre recherche. C'est que la personne qui achète mon livre, je veux qu'à la fin elle m'appelle pour me dire: Andreas, grâce à ce livre j'ai appris des choses et j'ai trouvé un emploi. C'est vraiment le but pour moi. Oui.
Ok. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande le titre du livre. Est-ce que tu peux nous répéter le titre du livre? Je vais l'écrire en commentaire.
Oui, c'est comment trouver le job de ses rêves.
Ok, comment trouver. Ok, les amis, vous écoutez comment Andreas le répète, hein, comment trouver le job de ses rêves. Donc, allez sur Amazon et puis achetez le livre d'Andreas. Ouais. Elle est.
On ressemble à ça.
Voilà.
Comment trouver le job de ses rêves avec ou sans diplôme et même en temps de crise.
Ah, ça, c'est-à-dire que quelqu'un, je n'aurais pas dit mieux, les amis. C'est-à-dire là, en fait, Andreas vous demande à travers son livre que même quand tu veux trouver l'excuse en disant, mais oui, il y a le COVID-19 actuellement.
Il n'y a pas d'excuse.
Non, il n'y a pas. En fait, c'est ça. Ouais. Waouh. Comment trouver le job de ses rêves et même en temps de crise. Très bien. Mais non. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a posé, il y a quelqu'un qui a soulevé un dilemme que je vais lire en commentaire là. Attends. C'est là, la personne dit, elle dit quand même quelque chose d'intéressant. Moi, je ne suis pas fan de lecture.
Oui.
En gros, elle essaye de dire en fait que, regarde là, voilà, ok. Moi, c'est-à-dire, je prends juste son commentaire pour illustrer une question en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il t'est arrivé de penser aux gens qui ne sont pas forcément, qui sont paresseux en termes de lire le papier traditionnel? Est-ce que tu as pensé à ces personnes-là en fait?
Oui. Tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs versions du livre qui vont sortir dans les semaines à venir. Il y aura la version audio parce que moi-même, j'avoue que j'écoute beaucoup. Moi, je suis consommatrice de livres, mais audio plutôt que des livres papier. Donc, il faut que mon livre me ressemble et je voudrais satisfaire le plus grand nombre. Donc, il y a la version audio qui va sortir. Là, il y a la version e-book qui est sortie la semaine dernière. Il y aura la version anglaise aussi. Dans les semaines à venir, il y aura pas mal de versions qui vont sortir, oui, tout à fait, c'est en cours.
Ah, ok, d'accord, très bien. Vous voyez que là, les amis, Andreas a pensé à tout le monde, hein, c'est-à-dire, il n'y aura pas de frustré dans le livre d'Andrea. Donc, ne pensez pas que, oui, elle a juste pensé aux gens qui aiment lire, non. Mais en même temps aussi, les amis, la vérité est bonne à dire, c'est que les gens qui aiment toujours dire que, oui, moi, je ne suis pas très papier. Moi-même, au départ, je n'étais pas très papier, en fait. Moi-même, pour être honnête avec vous. Au départ, je n'étais pas très papier. Mais vous allez comprendre une chose, c'est que la vraie documentation et les vraies informations se retrouvent dans le papier.
C'est vrai.
Voilà, c'est-à-dire, il faut bien comprendre une chose, c'est que, mais comment est-ce qu'on développe l'amour de la lecture? Ça, on pourra faire, ou bien Andreas, est-ce que tu peux donner quelques astuces là-dessus? C'est-à-dire, si quelqu'un, comment est-ce que d'après toi, quelqu'un peut développer, pourquoi pas, l'amour de la lecture quelque part?
Bah, moi, j'ai commencé par une astuce qui m'a beaucoup aidée, c'est 15 minutes par jour, au début. Quand on a du mal à lire, quand on n'aime pas la lecture papier, etc., ça ne sert à rien de lire un bouquin en entier sans le comprendre. Le but, c'est de comprendre et de prendre son temps. Et moi, j'ai commencé par 15 minutes par jour, je mettais mon chrono, top chrono, et je disais 15 minutes tous les jours, vous faites ça pendant ne serait-ce qu'une semaine, déjà, vous allez voir la différence. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et au final, vous allez voir, vous allez rallonger le temps et ça va s'installer tout doucement. Okay, en tout cas, ça a fonctionné avec moi.
Non, je pense que c'est la meilleure des choses, en fait. C'est-à-dire, quand tu n'aimes pas quelque chose, ne t'impose pas un rythme qui va te fatiguer, en fait. Est-ce que tu vois?
Oui.
Ne t'impose pas un rythme qui va te fatiguer parce que commence doucement et puis au fur et à mesure, c'est comme on dit, c'est-à-dire c'est une nouvelle habitude. Et
oui.
Voilà, les nouvelles habitudes s'installent progressivement en fait.
Donc, c'est ça. Voilà. Ça met du temps, mais ça s'installe.
Exact. Alors, on a une question ici. Il y a quelqu'un qui dit, Andreas, quels sont tes projets futurs? Continuer à travailler à la banque ou à te lancer 100% dans l'entrepreneuriat?
J'aimerais bien faire les deux dans un premier temps, à cheval à la banque et aussi faire de l'accompagnement, conseil de recrutement. Oui, tout à fait, ça c'est en cours. Oui. Okay. Avoir une casquette d'entrepreneur, accompagnement des personnes concernant leur recherche d'emploi et puis travailler en tant que salarié à la banque.
Ouais. Oui. Ok, ben oui, mais c'est bien, c'est une très bonne question, Tiffany Asiana, parce que
tout à
le
fait.
But c'est que… Je veux quand même préciser ça, c'est-à-dire, il faut comprendre une chose, c'est que il y a des gens qui aiment leur travail. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens, Andreas est une preuve vivante du fait que il y a des gens, si la personne décide de devenir salarié, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment ça et qui aiment servir les autres. Et quand elle sert les autres, elle-même aussi, elle grandit en fait.
Ah oui?
Il faut pas, c'est-à-dire, être entrepreneur à plein temps, c'est pour certaines personnes, mais le but, c'est qu'elle est en train de démontrer une chose, c'est que beaucoup, et là, c'est même tellement bien de poser ce genre de questions parce que ça permet de lever un équivoque très important, c'est que il y a des gens qui décident de quitter leur emploi parce qu'ils n'aiment pas leur emploi. Est-ce que tu vois un peu?
Oui, ah oui.
Donc, si tu as la chance de trouver un emploi que tu aimes, mais je ne vois pas pourquoi tu vas le quitter juste parce que tu vas dire que tu vas être entrepreneur.
Parfois, il n'y a pas de raison.
Voilà, il y a aussi des gens, parfois, ils vont dire, ben écoute, moi, j'étais entrepreneur, ça m'a fatigué, je n'ai pas aimé, et je suis retenu dans le salariat, en fait.
Ça arrive, oui, tout voilà, à fait. Donc, moi, je pense que tout le monde n'est pas forcément appelé à être entrepreneur. Moi, je suis banquière et j'adore ce que je fais à la banque. Mais j'aime aussi accompagner des personnes sur de leur recherche d'emploi. Je trouve un équilibre à tout ça. Oui.
Exactement.
J'adore ce que je fais à la banque. Mais j'aime aussi accompagner des personnes sur leur recherche d'emploi. Je trouve un équilibre à tout ça.
Carl, est-ce que tu peux diminuer ton pouce en septembre?
J'aime aussi accompagner des personnes sur.
Ok. Ben écoute, bienvenue Carl. Tu nous as rejoint. Est-ce que tu as une question pour Andreas?
Bonjour Carl.
Bonjour, bonjour. En fait, c'est juste pour l'encourager, en fait, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à...
Diminue le YouTube.
Bonjour. En fait, c'est juste pour l'encourager, en fait.
Merci, voilà. Carl.
Ouais, je voulais l'encourager parce qu'en fait, beaucoup de personnes n'arrivent pas à cette mentalité-là, en fait, où en fait, ils décident, en fait, de prendre leur vie en main, quoi. En tant qu'Africain, on a cette mentalité que l'éducation c'est de l'or, c'est tout en fait. Alors qu'en fait c'est pas vraiment ça qui est le plus important en fait. Dans la vie, il faut apprendre à être indépendant. Et je pense pas que l'éducation soit le seul moyen d'être indépendant en fait. Et dans mon cas, je suis allé à l'école depuis des années. J'ai appris au Gabon, j'ai eu diplôme au Gabon, j'ai eu diplôme ici. Et c'est plus tard que j'ai appris en fait que la vie, c'est pas en fait la richesse, c'est pas seulement en fait avoir beaucoup de connaissances, quoi. C'est le mettre en pratique aussi, en fait. Donc c'était pour encourager, en fait, tu vois, c'est pour ça.
Exactement.
Merci, ça.
Exact. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que la plupart du temps, nos diplômés, et ça il faut le dire, est-ce que tu vois, nos diplômés sont bourrés.
Exact. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que la plupart du temps, nous...
Carl, diminue ton pouce là où tu nous regardes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, diminue ça, en fait. Diminue complètement. Voilà, pour qu'on se parle bien. Alors, Andreas, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à Carl d'abord?
Oui, déjà, merci pour ton intervention. Et je rejoins tout à fait ce qu'il disait il y a quelques minutes. On est formaté diplôme, on est formaté études et on se rend pas compte que même déjà en venant sur Terre, on a déjà des capacités naturelles en fait qui sont déjà en nous. On se rend pas compte que même déjà en venant sur Terre, on a déjà des capacités naturelles et qu'on n'apprend pas forcément à l'école. C'est des compétences extra professionnelles et que j'explique très bien dans mon livre pour aller plus dans les détails et qu'on peut mettre en pratique dans une entreprise. Tout à fait.
Ben écoute, Carl, est-ce que tu as une autre préoccupation ou bien... Au fait, Carl, tu nous appelles d'où exactement d'abord? Au fait, Carl, tu nous appelles d'où exactement d'abord?
Je vous appelle du Texas. Hein.
Ok. tu es ici avec moi, en fait. Ok. Ben écoute, merci de nous suivre. Je vois que tu reviens du Gabon comme nous, c'est très bien et je suis ravi que tu aies compris cela. Ben écoute, si tu veux te procurer le livre d'Andreas, n'hésite pas, elle a donné les liens sur Amazon. Tu pourras acheter le livre et puis voilà, soutenir la compatriote aussi quelque part.
Oui, j'ai pris le lien.
Ok, cool, excellent. Ben écoute, Carl, tu nous reviens quand tu veux. Hein. On est là, abonne-toi à la chaîne. Like la page et va également liker la page d'Andreas afin de suivre son actualité.
Bien des choses à toi, merci, Andreas.
Okay. Merci, à bientôt. Ouais. Bye bye.
Donc, voilà, en fait, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui dit en commentaire ici, en fait, que lorsque tu aimes ton travail, voilà, lorsque tu aimes ton travail, tu as l'amour pour ce que tu fais, tu vois facilement les merveilles et les feux jaillir dans tous les sens, effectivement. Et aujourd'hui, on a les feux qui jaillissent du travail d'Andreas. Est-ce que ça, on a encore besoin de le dire? Ça, on n'a même plus besoin de le dire. Là, on le voit clairement. On le voit clairement. Et quand même, je tiens à avouer que quand je suis rentré en contact avec Andreas et qu'elle m'a parlé de son travail, je n'ai pas hésité un seul instant à vouloir parler de son travail, parce que le but ici, c'est de faire en sorte que il y a trop, malheureusement, dans notre communauté, on produit trop d'excuses que de produire les résultats.
Malheureusement.
Et quand on voit une femme comme ça là, qui donne des résultats, ça nous enchante davantage. Et souvent, quand je parle des problèmes de la communauté, il y a des gens qui disent « Oh oui, mais là, tu viens encore parler de nos problèmes. » Mais là, vous voyez, là, on parle des solutions de la communauté, justement.
Voilà, il y a toujours des solutions.
Voilà, voilà. Là, on parle de quelqu'un qui a réfléchi aux solutions de la communauté. Et c'est dommage que malheureusement, les gens ne veulent pas poser beaucoup de questions. Mais bon, dans tous les cas, vous avez les informations d'Andreas. Contactez, faites exploser la messagerie de sa page Facebook. Demandez des accompagnements avec elle. Si vous voulez acheter son livre, elle va vous envoyer son lien. Mais allez acheter le livre d'Andreas, parce que je pense que si tu as des problèmes d'emploi aujourd'hui, et elle a si bien dit, c'est-à-dire même si aujourd'hui on est dans la crise du COVID-19, dans son livre, elle a su déjouer. Parce que, et waouh, c'est ce que je trouve excellent dans ton travail, c'est que, regarde, quelqu'un aurait pu dire que, mais oui, elle nous parle du travail, mais elle ne sait pas qu'il y a la crise. Est-ce que tu vois un peu?
Oui, tout à mais fait, toi, c'est une excuse. Je sais bien qu'il y a la crise, mais c'est une excuse, ça.
Mm-hmm. Ouais. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que tu as su déjouer ce côté-là, en fait, en montrant aux gens que oui, il y a la crise, certes, mais c'est pas la solution pour dire que tu vas rester à la maison à ne rien faire.
Oui, voilà. Il y a quand même du boulot, malgré tout.
Exact, exact. Et quand même, je tiens aussi quand même à féliciter ton mari, parce qu'on a toujours tendance à dire ici que derrière un grand homme se crache une grande femme. Non, là, quand même...
Disons, je tiens à remercier aussi. Ouais, ce fut un grand soutien pour moi jusqu'à présent. C'est grâce à lui, c'est un ancien champion de boxe. Et c'est grâce à lui, justement, il a réussi à me contaminer ce côté persévérance et à développer en moi ce côté gagnant et ce côté battant.
Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que la plupart du temps, quand on voit la réussite d'un homme, on dit forcément, oui, il y a une femme derrière. Mais attention, les amis. Quand on voit la réussite d'une femme, il y a aussi un homme derrière.
Voilà. C'est ça.
Donc, voilà. Et il y a quelqu'un qui pose la question de savoir, félicitations à Andreas, très bien, encourageante et boostante. Tu es banquière où?
En France, dans une grande enseigne.
Bon, bien évidemment.
Je ne peux pas citer. Peut pas,
ouais, elle peut pas.
Par souci de confidentialité, je n'ai pas le droit.
Voilà. Ouais. Et puis, attention, Andrea est là pour parler d'elle. Elle n'est pas là pour faire la publicité là où elle travaille aussi. C'est pas ça le but.
C'est pas le but.
Voilà. Mais, comme on l'a dit au préalable, si vous voulez rentrer en contact avec Andreas et que vous voulez avoir son accompagnement ou encore acheter son livre, elle a une page qui s'appelle Job Attitude sur Facebook. Donc, allez. Au fait, Andrea, tu es déjà sur Instagram aussi?
Non, pas encore. Je vais arriver sur Instagram.
Non, il faut que tu arrives sur Instagram soon as possible. Tu dois arriver là-bas.
Oui, rapidement. Il y a beaucoup de choses là qui vont se mettre en place très rapidement.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, effectivement. Et il y a quelqu'un qui nous pose la question. C'est qui dit ici que elle va me l'offrir, Andreas, Pascal. Et moi, tu me mets où? C'est Eurydice Minkwe.
Il n'y a pas de souci. Rentre en contact avec moi et puis on va pouvoir s'arranger.
Ok, d'accord. Cool. Mais les amis, notre entretien tire vers sa fin. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des questions? Parce que là, ça fait bientôt 1h30 qu'on est là. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des dernières questions pour Andreas? Et voilà, on va les prendre vraiment. Moi, je suis. C'est rare pour moi de recevoir quelqu'un et que j'apprécie autant son travail comme aujourd'hui, en fait. Ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir quand je vois une femme de notre communauté faire un travail excellent comme ça. Et je tiens à t'avouer une chose, c'est que donc, en t'entendant parler, Andreas, je réalise une chose, c'est que tu as la fibre d'une motivatrice en toi, en fait. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu as la fibre d'une motivatrice. Donc, regarde vraiment.
J'en prends note, on ne l'avait pas dit. J'en prends note.
Ouais. Je suis tenté de déceler ça dans notre échange. C'est-à-dire, ton parcours, tout ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant, là, peut être une source de motivation pour quelqu'un qui est peut-être tenté de vivre une situation compliquée. Donc, vraiment, pense à ce côté-là. Mais bon, on va se parler en off.
D'accord, il n'y a pas de souci. Je reste ouverte. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Ben, écoute, les amis, s'il n'y a plus de questions, on va rendre l'antenne, comme on dit. Partagez la vidéo, partagez ce live-là. Mettez-nous des likes. Abonnez-vous à la chaîne Guerrier Mental, Warren et Asiana. Et surtout, allez liker la page d'Andreas. Allez acheter son livre sur Amazon. Allez acheter son livre parce que je pense que... Et ce qui est intéressant, c'est que son livre... Voilà, c'est quand même une question que j'avais oublié de mettre. C'est que, est-ce que ton livre est adapté avec les réalités de l'Afrique aussi? C'est-à-dire, est-ce que est-ce que c'est adapté avec les réalités africaines?
Je ne pense pas, malheureusement, je connais pas du tout les réalités de là-bas, hein, sans vous mentir. Moi, j'ai adapté plutôt le livre de manière à ce qu'il soit disponible surtout ici, en Occident, enfin en France et puis aux États-Unis. Mais l'Afrique, j'arrive. Il faudrait que j'étudie un petit peu plus le domaine de le recrutement en Afrique. Oui.
Oh, ok, il y a quelqu'un qui dit... Peut-on la trouver sur YouTube? Non, elle a dit qu'elle est en train de travailler sur sa chaîne YouTube. Elle va ouvrir sa chaîne YouTube. Et le truc, c'est que je ne la trouve pas sur Facebook. Alors, Andreas, ce qu'on va faire, c'est que mets-nous le lien en commentaire. Parce que là, les gens commencent à te chercher. Mets-nous le lien de ton Facebook en commentaire. Parce que là, sinon, après, il y a les gens qui commencent à te chercher déjà pour acheter ton livre.
C'est bien, c'est une bonne chose. Je vais vous mettre le lien.
Donc, Andrea, on laisse Andrea mettre le lien en commentaire, son lien pour aller la trouver. Voilà quoi. Donc, achetez le livre et mort. Bon, bien évidemment, oh là là, on a perdu Andreas. Bref, elle est en train de mettre le lien, je vais aller la chercher. Mais bon, bref, dans tous les cas, les amis, une chose à faire, c'est que. Alors, elle est en train de revenir, très bien. Voilà. On t'avait perdu un moment là.
Oui, j'ai pas réussi à mettre le lien. Je le mettrai tout à l'heure.
Ok, il n'y a pas de problème. Tu vas mettre ça là, à la fin quand on va se séparer. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Ok. Donc, allez liker la page d'Andrea. Si vous avez des questions, elle répond à des questions inbox, des accompagnements, pourquoi pas. C'est-à-dire, si vous voulez trouver de l'emploi aux États-Unis ou en Europe, elle est disponible. Mais je pense aussi que ce genre de livre là, si tu lis ça clairement, ça peut te donner des trucs et des astuces pour également t'adapter aussi en Afrique.
Même si tu es en Afrique, oui, ça peut aider.
Voilà, c'est pas, faut pas forcément prendre ça comme étant le fait que oui, elle parle juste pour les gens qui sont chez les Blancs. Non, moi, je pense pas. Il y a des livres que, je prends même un exemple simple, Père riche, père pauvre. À la base, Robert Kiyosaki, il a écrit ça pour la société américaine, est-ce que tu vois?
Oui, tout à fait, oui.
Mais c'est adapté à toutes les sociétés. Voilà.
C'est universel, oui, maintenant,
voilà.
Oui.
Voilà, oui. Exactement. Alors, Andreas, si tu devais nous donner un mot de la fin, quel sera ton mot de la fin? Attends. Il y a quelqu'un qui dit sur Facebook, c'est Andreas Pascal ou Job Attitude.
C'est Job Attitude.
Job Attitude collé. Allez simplement
sur la page. Oui, tout attaché. Oui,
voilà. Job allez Attitude. Sur la page Facebook, voilà. Allez sur la page sur Facebook, le onglet recherche. Vous tapez simplement Job Attitude collé.
Tout attaché, oui, tout collé. Voilà. Oui.
Vous allez trouver en réaction. Alors, oui, parce que faut pas aussi aller bousculer son Facebook personnel. C'est une femme mariée. Faut pas aller la fatiguer là-bas. Voilà. Donc, si tu devais nous donner un mot de la fin, je veux que ton mot de la fin soit en trois volets, en fait. Le premier volet, en fait, c'est les hommes qui n'encouragent pas leurs femmes. Oui, parce que il y a beaucoup de. Oui, tu voulais dire quelque chose avant?
Non, non, pas du tout. Je,
Ah,
j'écoutais.
ok. Voilà. C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes qui ont du potentiel dans notre communauté, et même en général, les femmes en général. Elles ont du potentiel, mais malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que elles sont freinées par leur propre mari. Ça, c'est les premières personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux dire à ces hommes-là qui ne veulent pas encourager leurs femmes? Parce que toi, ton mari est clairement ton moteur quelque part par rapport à ton ascension aujourd'hui.
Oui,
Qu'est-ce
c'est
que
vrai
tu peux dire?
qu'il m'a inspiré, oui, il m'a poussé de l'avant, mais c'est vrai que moi, je voudrais dire à ces hommes-là, on est en 2021, les mœurs ont évolué, la société a évolué, et c'est que posez-vous une question, messieurs, si il arrive, je ne vous souhaite pas, mais si vous arrive quelque chose, on ne sait jamais, que va devenir madame? Et si vous avez des enfants, que va devenir votre progéniture? Si madame ne travaille pas, il vous arrive quelque chose, elle se retrouve toute seule avec les enfants. Comment fait-elle? Ou même toute seule, 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 sans monsieur. Comment fait-elle pour s'assumer, pour assumer, assurer les factures, pour assumer tout ce qu'il y a à payer dans la maison? Comment elle fait sans emploi, toute seule? Là, c'est une question très importante. Pensez-y. C'est bien beau, hein, de demander à madame de ne pas travailler. Mais on n'est pas éternel sur Terre. On ne sait pas quand est-ce qu'on est appelé à partir. Donc voilà, c'est surtout pour ça que c'est important qu'une femme de nos jours travaille et son indépendance financière aussi. C'est valorisant d'apporter quelque chose sur la table. Et puis en cas de coup dur, monsieur peut avoir un accident. Je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et là, au final, vous avez votre emploi. Il arrive quelque chose à monsieur, vous pourrez toujours assurer.
Exactement. Donc, messieurs, encouragez vos femmes. Ne soyez pas un
Incroyable.
obstacle pour vos femmes, parce que
Oui.
y a trop. Faut arrêter de faire la sorcellerie dans la communauté, parce que les gens
Ça,
souvent ont
c'est ça.
toujours tendance à dire. Et puis aussi, je pense que Andréa, peut-être que c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire, il y a certaines personnes, ils voient peut-être leurs femmes comme étant des potentielles concurrentes aussi. Est-ce que tu
C'est
penses?
ça. Oui, c'est vrai. Je voulais pas évoquer le sujet, mais ça arrive aussi. Tout à fait. Des hommes qui ont peur que madame ne brille plus.
Voilà.
Ça arrive aussi et qui étouffe le potentiel de madame alors qu'elle a quelque chose à apporter à la société. Et ça, c'est vrai que c'est de la sorcellerie, ça. Étouffer madame parce que le monsieur se rend compte qu'elle a une étoile en elle, elle a quelque chose en elle, et il veut essayer d'étouffer ça, mais c'est dommage.
Fernande, en fait, Andreas a dit, elle va poster le lien de sa page juste après l'émission en commentaire, en
Oui,
fait,
juste
parce que
après
là,
l'émission, oui.
oui,
Je
parce que
mettrai
là,
toutes les informations.
ouais, elle va mettre toutes les informations. Et puis même aussi, ce qu'elle va faire, c'est que elle va m'envoyer ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en barre de description de cette interview, en fait. Donc, elle va m'envoyer tout
D'accord,
cela.
oui, ce sera plus simple. Très bien.
Voilà. Et ce qui est même intéressant, c'est que Warren, Asiana vient de faire un travail excellent. Oh là là. Elle a trouvé le lien de ton livre. Tu as vu, elle a
Ah,
mis ça juste.
merci.
Oh là là.
Merci,
Très bien,
Asiana.
très bien. Très bien, très
Super.
bien. Ouais, elle a mis ça juste en commentaire. Voilà. Donc, voilà le lien là où vous pouvez acheter le
Merci,
livre.
c'est ça.
Voilà. Oh, très bien. Merci beaucoup, Asiana. Merci beaucoup. Asiana, en fait, c'est la modératrice de la chaîne, en fait. Voilà.
Oui,
Donc,
bah, je la suis justement sur la chaîne Warren et Asiana.
yes. Donc, voilà. Elle a mis juste le lien. Donc, voilà. S'il y a des personnes qui veulent acheter le livre dès maintenant, allez simplement dans la barre de description et vous cliquez, vous achetez le livre. Et à la fin de l'émission, Andrea va mettre sa page Facebook. Alors, le deuxième mot de la fin, c'est les jeunes filles qui sont aujourd'hui, peut-être qui sont devenues mères précocement, parce que tu vois, et qu'elles estiment que, oui, là, ma vie est fichue, j'ai eu des enfants trop tôt, je n'arrive plus à me relever, comment est-ce que ça va se passer? Quel est le message que tu vas donner à ces dernières, en fait, par
Mais
rapport à ton
je vais leur
parcours?
dire que par rapport à mon parcours, il n'est jamais trop tard. Voilà, elles sont devenues mères un peu trop tôt. Il n'est jamais trop tard. Si elles sont effectivement dans la recherche d'emploi ou autre, il y a toujours des solutions. Et des fois, c'est vrai que quand on est jeune maman, on se pose des questions sur notre avenir, surtout notre avenir professionnel. On se demande ce qu'on peut faire. Mais moi, je dis dans un premier temps, c'est ce que j'explique dans mon livre. Quand on est jeune maman et qu'on a envie de travailler, l'argent n'a pas de couleur. Des fois, on est obligé de faire des choses forcément, peut-être pas à long terme, mais si vous voulez travailler immédiatement et trouver et avoir de l'argent rapidement, il y a des solutions, il y a des emplois. En passant par une voie légale, hein, bien sûr, et par un travail pas forcément valorisant, mais dites-vous, c'est passager, tout est ponctuel, c'est une histoire de temps. et prenez ce qu'on vous offre dans un premier temps. Tant que ça reste dans la légalité et ça n'atteint pas votre intégrité, allez-y, foncez.
Exactement. Très bien, très bien, très bien. Effectivement, c'est ce qu'il faut retenir parce que les gens pensent que lorsqu'ils vivent des souffrances actuellement, ça va rester éternel en fait. Alors que parfois, ce sont des souffrances qui peuvent te permettre, ce sont des souffrances qui peuvent être servies comme étant des tremplins pour que tu ailles à un autre niveau demain en fait.
C'est ponctuel, tout à fait. Voilà. Oui.
Exactement, exact. Oui. Alors, et le mot de la fin, le dernier, bien évidemment, c'est pour toutes les personnes actuellement qui n'ont pas eu un diplôme, qui l'école était compliquée pour elles, et que par rapport au fait que ces personnes-là, comme elles n'ont pas eu de diplôme, elles se sentent parfois diminuées par rapport à leur potentiel. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là?
Ce que je voudrais leur dire à ces personnes, c'est qu'elles ont forcément du potentiel. Elles ont forcément quelque chose en elles. Même si elles n'ont pas fait d'études, même si elles ont un parcours différent de la moyenne, elles ont forcément une graine en elles. Elles ont forcément quelque chose qui est en état, comment je pourrais dire ça, en état de fécondité, mais qui va naître forcément. Il suffit de trouver le petit truc. Et c'est pour ça que si ces personnes ont besoin d'accompagnement, je peux les accompagner. Et je me suis trompée tout à l'heure, je disais que je ne vise pas l'Afrique, mais en fait, au final, je me rends compte que mon livre aussi apporte beaucoup de solutions, mais surtout sur les compétences. Peut-être pas sur le mode de recrutement, je suis d'accord, en Afrique, mais sur le développement de compétences et de connaissances et techniques, tout à fait. Donc, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'Afrique.
Exactement.
Ce livre est aussi… Oui. Ce livre aussi est une solution, effectivement, pour des personnes qui se cherchent, qui ne croient pas en leur potentiel et en leurs compétences. Tout à fait.
OK, OK. C'est bien de préciser ça, oui, parce que les gens pourraient trouver des échappatoires en disant oui, ben, elle ne fait que parler pour les gens qui sont en France ou aux États-Unis. C'est bien de signaler ça. Très bien, très bien. Ben, écoute, Andreas, merci, merci. C'est-à-dire, malheureusement, les bonnes choses ont toujours des fins, voilà.
C'est ça.
Mais vraiment, ce fut un plaisir d'échanger avec toi, de parler de ton parcours. Merci beaucoup.
J'en suis honorée, merci Warren.
Ouais, merci beaucoup. Ben écoutez, les amis, comme pour finir, abonnez-vous à la chaîne, partagez le live, allez liker la page d'Andreas, Job Attitude. Et surtout, tenez-vous prêts. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il est important d'aller liker la page d'Andreas? Parce que ce qui va arriver, c'est que quand elle va ouvrir sa chaîne YouTube, vous serez déjà en contact direct avec le fait que tout ce qu'elle va publier, vous allez recevoir ça en fait. Donc, c'est vraiment urgent que vous allez liker sa page parce qu'en likant sa page, vous allez être au courant de ce qui se passe par rapport à son livre, par rapport à son actualité parce qu'elle a dit qu'elle est en train de préparer plusieurs versions de son livre. Donc, oui. Allez déjà vous abonner à sa page pour que vous soyez au courant de ses actualités. Donc, les amis, ceci étant, les bonnes choses ont toujours une fin, comme on dit, hélas. Mais j'espère que cette interview-là a permis de booster les compétences de chacun et de comprendre une chose, c'est que peu importe ton potentiel, c'est possible. C'est possible que tu puisses t'en sortir. En fait, ta seule limite, c'est toi-même, en fait. Donc, ta seule limite, c'est toi. Alors, je ne peux pas finir ce live-là sans quand même donner un mot de la fin encore à Andreas. Dis-nous quelque chose pour terminer.
Alors, pour terminer, comme je le dis dans mon livre, ne soyez pas, là je vais parler d'emploi, de recrutement purement, ne soyez pas juste un candidat parmi les autres. Grâce à mon livre, soyez le candidat qui sera retenu. Parce que n'oubliez pas, le recruteur, il a un but, c'est de recruter le meilleur candidat. Et vous, votre but, justement, c'est d'être recruté. Et s'il vous appelle, c'est qu'il sait que vous avez déjà les compétences pour le poste.
Exactement, exact. Yeah. Exact. C'est-à-dire, comme tu l'as si bien dit dans ton livre, ça commence d'abord dans la tête, en fait. Et je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. OK, ben écoute. Andrea, je viens de t'envoyer un message en privé. Je ne sais pas si tu vas regarder ça. Tu as reçu ça.
D'accord, je vais regarder.
Regarde un peu, je t'envoie un message là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai décelées dans notre entretien là qu'il faut que je te parle en inbox.
Alors, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai noté, j'ai vu le message.
OK. Ben écoutez, les amis, ce fut un plaisir. Comme bien évidemment, Asiana fait toujours un travail excellent. Elle a trouvé la page d'Andreas, donc elle a mis ça encore en
merci, Asiana.
Voilà, donc, ok. Ben écoutez, les amis, on se dit à la prochaine. Ce fut un plaisir. Écoute, Andreas, reviens-nous quand tu veux. Hein. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que au fur et à mesure que ton livre va évoluer et que tu vas changer de plateforme, c'est-à-dire la langue, le numérique, etc., le livre audio, reviens-nous. La guerrier mental est totalement ouvert à te recevoir parce que tu nous as démontré ce soir que toi-même, également, tu es une guerrière en gestation.
Voilà. C'est fait un honneur pour moi d'être parmi vous et merci de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer sur ta page. À bientôt.
Ok. Alors, les amis, on se dit à la prochaine. Au revoir.
Au revoir.